Le journal d'Émilie Momentaler.
Bonjour. Responsable de la conduite du changement, un poste qui intrigue. Un député a demandé des précisions sur cette offre d'emploi du canton. Selon le gouvernement, ce rôle clé dans l'évolution de l'administration s'inscrit dans le projet de modernisation de l'État et sa transformation digitale. Une immersion au cœur des procès de sorcellerie qui ont eu lieu dans la région entre le 16e et le 17e siècle, c'est la série que vous propose RFJ cette semaine. Éclairage sur une procédure typique qui s'était tenue à Bressaucourt en fin de journal. Le peloton du Tour de France quitte la plaine pour le Massif central. S'il n'y a aucune montée au-delà de la deuxième catégorie au programme de la 10e étape, les cyclistes enchaîneront les ascensions lors de tracés taillés pour les grimpeurs. Météo, le ciel sera en bonne partie ensoleillé cet après-midi dans une atmosphère venteuse. Il fera jusqu'à 27 degrés en plaine, 22 à 1000 mètres. L'intitulé de ce nouveau poste a pu retenir l'attention. Le canton du Jura a publié une offre d'emploi pour un responsable de la conduite du changement début mai. Le député PLR Alain Schwein-Grobert a demandé des précisions sur ce futur engagement dans une question écrite. Le gouvernement jurassien détaille les contours du poste. Marceline Michon.
Responsable de la conduite du changement, un poste à 80% à durée déterminée jusqu'à fin 2029, qui s'inscrit dans le projet de modernisation de l'État et sa transformation digitale. Il s'agit d'un rôle clé dans l'évolution de l'administration cantonale jurassienne selon le gouvernement. Objectif, sécuriser la transition et l'appropriation des nouvelles pratiques et structures par les employés de l'État et mettre en œuvre les réformes qui comprennent l'optimisation et la réduction des prestations de l'État. Cet accompagnement au changement passera par une phase de diagnostic pour comprendre les enjeux et résistances. Il s'agira ensuite de lancer un plan d'action. Concernant les coûts, le poste s'inscrit dans les 4 PT prévus au budget pour la mise en œuvre de la modernisation de l'État.
Si le délai de postulation a été fixé à fin mai, le service des ressources humaines du canton du Jura précise que le processus de recrutement du responsable de la conduite du changement est toujours en cours. Un homme de 59 ans a vraisemblablement tenté de tuer son frère aîné hier à Bilbenken. Les faits se sont produits tôt le matin dans la maison de la victime, selon la police cantonale baloise. Le suspect est sous les verrous alors que son frère a été blessé et transporté à l'hôpital. Une enquête a été ouverte à propos de cette affaire qui est liée au contexte familial. 11 blessés, dont 4 enfants, dans un accident de la circulation en Argovie. Deux véhicules sont entrés en collision hier soir à Vurenlos. Le conducteur d'un minibus âgé de 79 ans a ignoré un feu rouge, provoquant un choc violent contre une voiture. La majorité des blessés ne le sont que légèrement. Le minibus transportait des touristes venus d'Uruguay. Le groupe était en route pour l'aéroport de Zurich. Thierry Ardisson n'est plus. L'animateur et producteur français est décédé ce matin à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du foie. C'est ce qu'ont annoncé son épouse et ses enfants dans un communiqué. Retour sur le parcours de vie de l'homme en noir avec Loïc Georgi.
La star du PAF a fait ses débuts dans la publicité avant de passer sur le petit écran. Dès les années 80, il a su s'imposer comme l'une des figures les plus impertinentes de la télévision avec ses talk shows à succès en soirée. Tout de noir vêtu, a surnommé l'homme en noir justement, il a animé pas moins de 35 émissions dont Bain de minuit, Tout le monde en parle ou encore Salut les terriens et j'en passe. Armé d'un éternel sourire, l'animateur qui aimait transgresser et désarçonner ses invités avait le sens de la formule. Certains rituels d'ailleurs comme ces fameux bonsoirs en entrée d'émission ou encore son magnéto Serge reste indissociable de son personnage. L'homme de télé fut aussi patron de presse, a fait de la radio, produit des séries et des films, écrit plusieurs livres dont Le Mans Noir paru en mai dernier. Emmanuel Macron lui a même remis la Légion d'honneur, c'était l'an dernier.
La majorité des bourses européennes ont ouvert en baisse ce matin. Elles ont plié face à la nouvelle offensive douanière de Donald Trump pendant le week-end. Le président américain a annoncé 30% de droits de douane sur les produits de l'Union européenne. Le commissaire européen pour le commerce souhaite une nouvelle fois s'entretenir avec ses homologues américains aujourd'hui avant une réunion des ministres du commerce de l'UE à Bruxelles. Place à notre série d'été au cours de laquelle RFJ vous propose un retour dans le temps. Toute cette semaine, nous reviendrons sur 5 procès en sorcellerie jugés dans la région entre le 16e et le 17e siècle. Des affaires qui témoignent de la peur, des croyances et des tensions de l'époque. Aujourd'hui, nous allons plonger au début du 17e siècle à Bressaucourt pour ce qui est une procédure typique menant à une condamnation pour sorcellerie, Thomas Nagy.
« Nous sommes en 1613. Une femme, Marie, se retrouve dans l'œil du cyclone. On l'accuse de sorcellerie. Depuis plusieurs années, son nom circule et un jour, la communauté de Bressaucourt adresse une plainte officielle. Elle demande l'ouverture d'une enquête. La cour de Porrentruy obtempère. Des officiers du prince-évêque ont alors pour mission de recueillir les témoignages, entendre les doléances et faire parler les habitants du village. Jean-Claude Rebeté, conservateur aux archives de l'ancien évêché de Bâle.
Et là, on va avoir les dépositions de 10 témoins. Et on apprend que plus de la moitié du village pense que cette femme est une sorcière, mais que la plainte dont on a parlé avant a été décidée en assemblée de la communauté sans aucune opposition. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il n'y avait pas d'opposition, que tout le monde croit qu'elle est sorcière. Simplement, il y a consensus. On va penser que, ben oui, puisqu'il y a des plaintes, réglons le cas. Mais c'est quand même important et un peu rassurant de voir qu'il y a quand même la moitié du village qui ne pense pas qu'elle est sorcière, quoi.
Au fil des entretiens, le portrait d'une personne pratiquant la sorcellerie se dessine peu à peu.
En fait, ça fait quelques années qu'il y a 5 ou 6 personnes qui ont eu des querelles avec elle, puis ont subi des dommages consécutifs à ces querelles. Et donc, depuis, sont certains que c'est une sorcière. Alors, on l'accuse d'avoir fait périr du bétail ou d'avoir donné des maladies. Puis un type est particulièrement convaincu qu'elle lui a donné sa maladie puisqu'elle lui a tapé sur l'épaule et est tombée malade. De plus, il y a des choses quand même que les gens avalent mal. Son verger semble être le seul à être épargné par les chenilles.
Sur la base de ces témoignages, le conseil du château décide d'entamer une procédure. S'enchaîne alors un interrogatoire et puis plusieurs séances de torture.
Donc la torture chez nous, c'est on vous lie les mains dans le dos et on les attache et on vous soulève. Il y a plusieurs grades de cette suspension. D'abord, on peut varier la durée de la suspension. Et ensuite, on l'aggrave en vous mettant une pierre dont le poids peut varier, qu'on suspend soit à vos mains, soit à vos pieds. Donc, autant dire que c'est une torture extrêmement pénible à supporter.
Marie résiste, mais après plusieurs séances, la pauvre femme finit par craquer et elle passe aux aveux.
Les aveux typiques, quoi. Elle a rencontré le démon, il l'a séduite avec des fausses promesses, elle a abjuré Dieu, elle s'est donnée à lui, ils ont eu une relation sexuelle, il l'a marquée, puis après il lui a donné de l'argent qui s'est transformé en feuilles, et il lui a donné des graisses avec lesquelles, des graisses maléfiques avec lesquelles elle a pu nuire aux gens et aux bêtes.
Les inquisiteurs lui font également avouer qu'elle a participé au sabbat des sorcières.
Ça, c'est très très important, le sabbat, parce que c'est bien la preuve que vous avez toute une société, une secte, qui est organisée contre l'Église, contre la chrétienté, et qu'il s'agit d'exterminer ces gens-là. Et pour les exterminer, bien comme il faut, on la torture à nouveau pour être sûr qu'elle a donné toute la liste des complices, des personnes qui sont aussi des sorcières, des personnes qui font partie de cette armée maléfique. Ce qu'elle va faire, elle donne un certain nombre de complices. La malheureuse d'ailleurs se rétracte un peu parce que je pense qu'elle a mauvaise conscience. Donc là, on a ses aveux définitifs qui vont être copiés dans un 6e document, celui qui sera présenté au tribunal, puisque nous savons qu'elle a été brûlée, mais par grâce du prince, étranglée sur l'échelle auparavant.
La condamnée est également dépossédée de ses biens.
Il était normal à l'époque qu'on confisque les biens de la personne condamnée pour sorcellerie, d'une part pour rembourser les frais d'emprisonnement, les frais de la cause, ce qui est quand même bien singulier pour un crime imaginaire, puisqu'évidemment tout cela est totalement imaginaire, mais aussi parce que l'amende du prince, eh bien, c'est la confiscation des biens de ces personnes.
C'était un sujet de Thomas Nagy. Demain, nous nous intéresserons à ce qui est pour l'instant le plus ancien cas documenté, qui remonte à 1511. À noter que tous les documents mentionnés sont consultables en ligne sur le site internet des archives de l'ancienne évêché de Bâle.
RFJ, il est 12h24.
RFJ, sport.
Grégoire Saucy et ses coéquipiers renouent avec des points, mais restent en deçà de leurs espérances. La McLaren numéro 59 du trio s'est classée au 8e rang des 6 heures de Sao Paulo hier au Brésil, dans le cadre du championnat du monde d'endurance. Après 3 courses sans marquer le moindre point, les pilotes de l'écurie United Autosports sont parvenus en grappiller 4. À 3 courses de la fin du championnat, Grégoire Saucy, James Cottingham et Sébastien Baude pointent au 8e rang du général. Et eux, ils brisent le mystère des profondeurs. Quelques adeptes d'apnée s'entraînent cet été dans le lac de Neuchâtel. C'est le cas notamment de Nicolas Offrand. Lors de notre reportage, cet habitant d'Orvin a enfilé sa tenue de plongée et a descendu à 55 mètres de profondeur. Pour lui, l'apnée est un sport, mais aussi et surtout une manière de se ressourcer. Nicolas Offrand.
C'est une pratique qui me permet à moi de rester en bonne santé et puis de faire attention à ce que je mange, d'avoir une activité sportive régulière. Et puis surtout, comme l'apnée, c'est 70% de mental, d'avoir aussi un petit peu de l'ordre dans les idées et puis de restaurer des fois le calme quand on a dans la vie des moments un petit peu de stress. J'ai commencé l'apnée dans une phase de ma vie où j'étais dans un très gros stress. Donc j'avais repris la direction d'une entreprise et puis il y avait beaucoup de choses à refaire, à remodeler. Puis j'avais besoin d'un sport qui me permet un petit peu de façon figurée et puis propre de mettre la tête sous l'eau en fait. Et puis d'être coupé de tout stimuli extérieur. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais.
Retrouvez un reportage lors de la plongée de Nicolas Offrand sur rfj.ch. Belinda Bencic fait un bond au classement mondial. La joueuse de tennis saint-galloise est passée du 35e au 20e rang après sa demi-finale perdue il y a quelques jours à Wimbledon. La hiérarchie actualisée a été publiée ce matin. Le classement est toujours dominé par Aryna Sabalenka, alors que la récente vainqueur à Londres, Iga Swiatek, a gagné un rang pour s'établir à la 3e place. Chez les hommes, pas de changement. La hiérarchie est toujours dominée outrageusement par l'Italien Yannick Sinner, qui a gagné le Grand Chelem londonien hier. Suivent l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Allemand Alexander Zverev. Le meilleur Suisse est Jérôme Kim, qui pointe au 154e rang. Young Boys rapatrie un international helvétique. Edmilson Fernandez revient en Suisse. Le milieu de terrain s'est engagé pour 4 saisons avec le club bernois de Super League de football. Il appartenait au club allemand de Mayence, mais avait été prêté la saison passée à Brest en Ligue 1 française. Et on passe à l'actualité sportive du jour avec la première étape de montagne du Tour de France, avant un jour de repos bien mérité. Les cyclistes prennent la route aujourd'hui entre Eneza et le Mont Doré sur 165 km. Et cette 10e étape sera particulièrement exigeante en ce 14 juillet, jour de fête nationale en France. 7 côtes de 2e catégorie devront être franchies, ainsi qu'une classée en 3e catégorie. Le maillot jaune Tadej Pogacar attaquera cette grosse étape sans son fidèle lieutenant. Le Portugais João Almeida était contraint à l'abandon hier après avoir subi une chute il y a quelques jours. Tadej Pogacar regrette son départ, mais le comprend.
Il a été incroyable ces deux derniers jours. Il a donné son maximum. Mais aujourd'hui, même moi, j'ai souffert. Donc je n'imagine pas ce que lui a dû endurer sur son vélo. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Il va nous manquer, mais c'est mieux qu'il rentre chez lui pour se soigner et revenir plus fort.
Des propos recueillis et traduits par notre confrère de la RTS, Jérôme Jeannin. Le départ de cette 10e étape du Tour de France sera donné à 13h25. Merci pour votre écoute et bel après-midi.